l'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Nicole Lapierre, notre témoin de ce vendredi où la mémoire en alerte.
Beaucoup de mal à venir en Pologne, c'était trop dur. Et puis les quelques fois où mes parents, ou les amis, la famille parlaient de la Pologne et des Polonais, c'était en des termes peu flatteurs. L'antisémitisme qu'ils avaient connu dans leur enfance, dans leur jeunesse, quand ils vivaient ici, était profond.
D'abord, il y a eu sa longue enquête à la recherche des Juifs de Plotch. Une parabole disait « il n'en reste qu'un, mais il est devenu muet ». Puis, il y eut un grand travail sur le changement de nom. 5% des Juifs de France après la Seconde Guerre y ont recouru, à commencer par le père de Nicole Lapierre. Pourquoi, comment, pour combien de temps, se demandait-elle. Aujourd'hui, elle clôt en quelque sorte ce cycle avec un troisième ouvrage plus petit qui tient dans la main et qui est encore plus intime. Par ailleurs, Nicole Lapierre a mené nombre de travaux souvent collectifs d'ordre, sociologique, anthropologique, peu importe l'assignation à une discipline. Ses pairs, P-A-I-R-S, sont appréciés. Elle a été directrice de recherche au CNRS. Et puis, il y a cette autre ligne de publication poursuivie à l'ombre des pairs, P-E-R-S, qui à chaque fois l'ont littéralement déplacé. Il y a le soi savant et le moi cherchant. C'est peut-être d'ailleurs une originalité française que de pouvoir passer ainsi de l'une à l'autre, puisque depuis Lévi-Strauss, on peut publier coup sur coup une thèse de doctorat sur les structures de parenté, Triste Tropique, où Lévi-Strauss nous faisait part de son exaltation comme de sa dépression. La dépression, l'histoire familiale aurait pu y conduire Nicole Lapierre, mais pas du tout. La mémoire ne bloque pas nécessairement dans une impasse, elle peut être tout au contraire vive comme en alerte, Michel Foucault disait. Non, je ne suis pas là où vous me guettez, mais ici, d'où je vous regarde, en riant.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Nicole Lapierre, bonjour.
Bonjour.
Directrice de recherche au CNRS, on peut dire quand même que vous avez reçu il y a peu une lettre vous disant...
Que j'étais rayée des cadres, mais comme tous les fonctionnaires qui sont mis à la retraite à 65 ans au CNRS.
Et cette lettre commençait par
Non, elle finissait par « Recevez cher monsieur
». Alors revenons à cette série de travaux. Je n'ai pas lu tous vos livres, on va en observer surtout trois. Le premier est paru en 1989 parce que vous aviez été pionnière en la matière. Vous étiez partie à la recherche donc des Juifs de... Plotch, c'est une ville au centre exact de la Pologne. Hein.
Oui, sur la Vistule, à une centaine de kilomètres de Varsovie.
Ce livre s'appelait « Le silence de la mémoire » et vous y évoquiez le départ de votre père. Alors on imagine toujours aujourd'hui que les Juifs de Pologne sont partis après la guerre. Non, il est parti en 26, votre père.
Oui, mais ils étaient nombreux à partir dans les années 20 et 30. Même la première vague d'immigration, c'était en 1905, la première grande vague. Et mon père est parti parce qu'il rêvait de devenir médecin et qu'en Pologne, les Juifs n'avaient pas l'accès à la faculté de médecine. Il y avait ce qu'on appelait le numerus clausus. Donc, il est parti pour réaliser son rêve. Voilà.
S'en aller, parole de vivant. Ça, c'est un vers que vous avez cité
de Saint-Jean-Perse, que j'adore. Oui.
Vous évoquez la séance des adieux sur le quai de la gare. Bonne chance, dit le père de votre père à votre père.
Oui, il lui dit mit mazel, ça veut dire bonne chance. Mais quand ils se sont quittés à cette époque-là, ils comptaient se retrouver. Et d'ailleurs, ils se sont retrouvés. Mon père est reparti pour des vacances en Pologne. Il n'imaginait pas que, un jour, ses adieux seraient rétrospectivement vus comme dramatiquement définitifs, puisque les parents restés en Pologne ont presque tous péri dans le génocide.
Et lui est devenu médecin de campagne en France, dans la Cambrousse, disait votre mère, c'est-à-dire...
Oui. Il rêvait d'être chercheur, mais il s'appelait à l'époque Israël Lipstein, et il était tout fraîchement naturalisé, et c'était difficile alors pour lui de faire une carrière de recherche, donc il est devenu médecin de campagne, en effet, dans le Mâconnais.
La Cambrousse, c'est Crèche
sur Saône.
Où votre mère vivait comme la femme du médecin. On lui demandait constamment d'ailleurs son avis. Et elle disait que c'est, conjugalement, il n'y avait pas de transmission du savoir médical. Et pendant ce temps, la famille était restée en Pologne. Voici au micro d'Interception Pascal Dervieux, le grand rabbin Michael Sudrich, qui est le grand rabbin actuel de Varsovie et qui évidemment n'est pas d'origine polonaise. Comment pourrait-il l'être? Il est d'origine américaine.
Well, the Jewish community of Poland today means the Jews living in Poland.
La communauté juive de Pologne, ça veut dire que des juifs vivent en Pologne. La question est pourquoi restent-ils des juifs en Pologne? En septembre 39, quand la guerre a éclaté, il y avait en Pologne 3,5 millions de juifs, 10% de la population. C'était le centre du monde ashkénaze. Fin 44, 90% des juifs avaient été assassinés. En 25 ans, jusqu'en 1970, la majorité des 350 000 survivants sont partis, mais pas tous. Et beaucoup de ceux qui sont restés ont décidé de ne plus être juifs, qu'ils cacheraient leur identité, même devant leurs enfants et petits-enfants. Ces secrets de famille sont restés bien enfouis. 50 ans.
Et ils étaient enfouis quand vous avez travaillé dans les années 1980. Vous aviez choisi Płock parce que c'était la ville d'origine de votre père. Pour d'autres raisons aussi, c'est une ville moyenne, représentative. Et vous connaissiez d'emblée cette parabole selon laquelle il ne resterait qu'un juif à Płock, mais qu'il était devenu muet.
Pour moi, c'est une parabole, mais c'est un fait. C'est-à-dire que, d'abord, quand j'ai été à Płock pour faire des entretiens, j'avais une adresse d'un homme survivant, et j'ai été l'interviewer, et pour tout récit, il m'a montré sa notice biographique dans le Wuzu polonais. J'ai considéré qu'il était symboliquement muet. Et puis, beaucoup plus tard, dans mon enquête aux États-Unis, j'ai appris qu'il y avait un vrai muet qui avait survécu à Auschwitz, qui était retourné à Płock, et qui était muet de naissance. Et lui, je ne l'avais pas rencontré. Et d'une certaine manière, je me suis dit, c'est pas grave, je lui laisse en quelque sorte le dernier mot. Le dernier mot, c'est cette parabole du juif muet.
À Varsovie, pendant le ghetto, Ringelblum, avec une équipe d'historiens, consignait jour après jour les faits de la persécution. Eh bien, à Płock, il y a eu aussi une bouteille jetée à la terre.
Absolument. Il s'appelait Simcha Gutermann. Il a réussi à s'enfuir du ghetto et il a écrit sur des fines bandes de papier massicotées et mis dans des bouteilles, en effet, cachées dans une cave. Il a raconté toute l'histoire du ghetto.
Ce livre paraît en 1989, je disais qu'il était pionnier. Et puis, les années qui vont suivre, on va voir le climat changer. En Pologne, l'enseignement de Jean-Paul II, la sortie du communisme, plus tard la création du musée de l'histoire des Juifs. Le grand rabbin, toujours, qui évoque cette période d'après 89.
Depuis 1989, certains survivants ont commencé à raconter la vérité à leurs enfants. Des milliers de Polonais, bien sûr, personne ne peut dire combien de milliers ont découvert qu'ils avaient des racines juives. Mon grand-père m'a raconté que, ma mère m'a dit que, j'ai trouvé des documents. Alors ils viennent vers nous et nous leur ouvrons les portes. S'ils veulent pénétrer la culture juive, nous les aidons à comprendre ce que signifie être juif.
To understand what it means to be Jewish.
Alors, vous êtes heureuse, vous, Nicole Lapierre, d'avoir, à votre façon, contribué au développement de ce mouvement en Pologne, en France aussi, où en 1995, Jacques Chirac reconnaît la part de responsabilité des autorités françaises dans le génocide de la Deuxième Guerre mondiale. Heureuse, irritée aussi, parfois.
Oui, les mémoires ont aussi une histoire. Et la mémoire juive et la mémoire du génocide a une histoire. Il y a eu un temps de silence, silence dans les familles, on vient de l'entendre, silence non-reconnaissance dans l'espace public. Et quand j'ai sorti le silence de la mémoire, fin des années 80, c'était au fond, je faisais partie de cette génération de l'après-guerre qui voulait rompre ce silence. Rompre ce silence pour connaître l'histoire, aussi que soient aussi su les crimes de Vichy, dont on parlait fort peu. Et parce que émergeait également le négationnisme à cette époque-là. Donc il fallait que le silence soit rompu, qu'une reconnaissance publique ait lieu. Et cette reconnaissance a eu lieu, en effet, 95, Chirac, ça a été un moment important. Mais l'histoire de cette mémoire a continué. Et depuis, je dirais, les années 2000, elle s'est complètement internationalisée, officialisé et, je dirais, de sa manière figée. C'est Imre Kertész, grand écrivain hongrois, prix Nobel de littérature, survivant aussi, qui dit qu'il y a une espèce, aujourd'hui, un conformisme de l'Holocauste. C'est son expression. Et à ce moment-là, cette mémoire devient la référence absolue de tous les autres préjudices. La mémoire à laquelle il faut se mesurer pour faire reconnaître d'autres drames.
Imre Kertész, il dit même, il va plus loin, il y a des produits de l'Holocauste pour la consommation de l'Holocauste. Et vous citez d'ailleurs dans votre dernier livre, Sauf qui peut la vie, des exemples, des faux qui sont fabriqués pour devenir des best-sellers, voire des films, et qui compte des histoires qui ne sont pas exactes. Survivre avec les loups, cette dame qui prétend, enfant, avoir erré dans l'Europe centrale jusqu'à être recueillie par une meute de loups. Rien de tout ça n'est vrai.
Oui, mais ces récits, celui de Fonseca, celui de Wilkor-Mirski, sont des symptômes pour moi. Le symptôme du fait que, à partir du moment où la victime de la Shoah est devenue la victime absolue, pour faire connaître au fond sa souffrance, son drame, quoi de mieux que de s'inventer ce destin de victime.
Avec le danger de la concurrence des mémoires que vous tentez de conjurer en appelant au dialogue des mémoires. Alors, des exemples de dialogue des mémoires.
Oui, mon avant-dernier livre s'appelait « Cause commune » et revenait sur de très nombreux exemples, histoires très belles de solidarité entre juifs et noirs aux États-Unis, en Afrique du Sud, en France aussi, ici, dans la période de la décolonisation, par exemple. Au fond, ce livre, je le considérais un peu comme l'anti-Dieudonné. C'est-à-dire, je déteste l'idée et même le terme de concurrence des victimes. C'est comme s'il y avait une sorte de ring avec des populations qui se battent, chacun sa mémoire, chacun son identité, cette logique des places que je déteste. Et le problème est plus général. Et le problème est que dans nos sociétés, dans les sociétés occidentales, aujourd'hui, il y a certaines mémoires qui ont une place considérable. Et d'autres qui n'ont pas, et pour des histoires différentes, chaque histoire est différente, n'ont pas la reconnaissance qu'elle mériterait, d'où des frustrations, d'où des dérives, d'où ces concurrences désolantes.
Très beau livre de Schwarzbart, des époux Schwarzbart, signé à deux, qui mettait en parallèle, ça s'intitule Un plat de porc aux bananes vertes, c'est vous qui dites son importance, l'expérience des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre, et le récit dans un hospice, vous êtes aussi une grande connaisseuse du vieillissement, d'une dame antillaise âgée qui tient son journal.
Oui, pour André Schwarzbart, qui d'après Simone que j'ai interviewée était quand même le principal auteur de ce livre-là, même si Simone l'a beaucoup aidé. Cet hospice, au fond, était la métaphore d'une institution totalitaire, la métaphore des camps. Et la misère de Mariotte, cette vieille antillaise dans cet hospice, était c'était la misère de la vieillesse, c'était la misère d'une partie des Antillais, c'était la misère des Juifs, dans une seule histoire.
Ben Zimet, le chanteur yiddish, vit maintenant à Gorée, au Sénégal. Il met en scène dans ses chansons « Déserts africains » et des airs du Yiddishland. Si vous le voulez bien, on va en rester à son ancienne compagne, la grande Talila, qui chante ici un village de Pologne abandonné dans la mémoire des témoins que vous avez souvent rencontrés. Revient toujours le thème de la maison familiale, de la mère aimante, du père digne et vertueux.
In der Jugend winkt wie ein Hulen, wird mir alles vor. Wie seht euch durch die Welle, du Sachiblatt, in du Speimale, wo sich ob gepflanzt, oi, 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 Belt, mein Stimm. Alle Bels, mein Heim, alle Dacht, wie ich hab meine kindische Jule verbracht. Oi, 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 Bels, mein Stimm, alle Bels.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Nicole Lapierre, notre témoin de ce vendredi, nous égrenons les livres de recherche intime qu'elle a multipliés tout au long de son parcours, un peu en parallèle de son parcours universitaire. Il y a ce livre qui s'intitule « Changer de nom ». Lévi-Strauss disait un nom, sa classe. Depuis le XVIe siècle, il y a un principe en France d'immutabilité des noms, qu'on peut cependant contourner depuis pas mal de temps. Si vous appelez monsieur curé et que vous êtes instituteur, monsieur bourreau et que vous êtes médecin,
monsieur Cocu, vous pouvez devenir monsieur Cossu, c'est sûr. Il y a la possibilité assez restrictive en France de changer de nom. Parce qu'on porte un nom ridicule ou malsonnant, ou parce que l'on porte un nom d'origine ou de consonance étrangère qui peut être un stigmate, vous nuire dans la vie. Et c'est comme ça, par exemple, un certain nombre de juifs, dans les années 50, ont changé de nom. Pour eux, ces noms étaient des stigmates, c'est-à-dire c'était comme les étoiles jaunes. Ils les désignaient comme juifs et au fond, ils ne voulaient plus de désignation.
Un arrêt du Conseil d'État de 47 admettait que porter un nom à consonance israélite pouvait être un motif de demande de changement.
Tout à fait. C'était une nouveauté d'ailleurs parce que avant-guerre, pour changer un nom juif, il fallait dire qu'il était russe ou polonais. Sinon, ce n'était pas admis. Mais après-guerre, quand même, on se dit qu'il y avait des raisons.
Votre père a changé de nom. Vous nous disiez son nom. Je vous laisse le répéter parce que c'était une avalanche de consonnes.
Lipstein, P, mais c'est surtout l'écriture, L-I-P-S-Z-T-E-J-N, écrit à la polonaise. Ma sœur disait, à l'appel, quand le prof éternue, je réponds présente.
Il est devenu le docteur Lipotin pendant la guerre.
Oui, il avait des faux papiers ici, en zone sud, pour se cacher.
Alors comment choisit-on un nom de remplacement? Voici, dans le documentaire de Céline Masson, que vous connaissez bien, leur nom, ils l'ont changé. Le témoignage de Madame Feinzilberg.
Feinzilberg. Et en France, c'était pas un gâteau. Parce qu'il faut des papiers, il faut tout ça. On est obligé d'aller 4-5 fois dans les machins de police pour tamponner les papiers. Et à la fin, il y a un monsieur qui l'a monté 43 ans, les amendés. On habitait là-bas. Il a dit, écoutez, vous pouvez changer. Et mon mari, il a dit, je voudrais rester le nom Fabre. Il a dit, Fabre, vous pouvez pas parce qu'il y a des Français qui s'appellent Fabre. Il a dit, vous pouvez mettre seulement Fazel. Oui, et on a dit, bon, d'accord, Fazel, c'est Fazel. Et on a accepté, il y a tous les papiers, c'est marqué Feinzilberg, dites Fazel.
Est-ce que vous avez bien porté le nouveau nom, Fazel?
Moi, je n'ai pas porté, ça vient tout seul. Le nom, ça rien. C'est le cœur qui ça compte.
C'est le cœur qui compte. On garde le souci, parfois, de la vie juive, tout en changeant de nom. C'est le cœur qui compte.
J'ai fait de nombreux entretiens avec des juifs qui ont changé de nom. Ils n'ont pas cessé d'être juifs pour autant. D'autant plus que dans ces familles ashkénazes, au fond, le nom de famille n'avait culturellement, ou cultuellement même, du point de vue du judaïsme, pas grande importance. Les états civils étaient tardifs. C'était des noms pour la ville, pour la cité, pour l'extérieur. D'ailleurs, pour échapper au service militaire en Pologne, les Juifs changeaient de nom parce que pour eux, c'était 8 ans, ils étaient persécutés. Donc voilà.
Lévi se fait changer son nom en Dupont, puis retourne à l'état civil et dit « je voudrais m'appeler Durand ». Alors les gens de l'état civil interloqués lui demandent pourquoi. Comme ça, quand on me demandera mon ancien nom, je pourrais donner un nom français.
Absolument. Il y a plein de blagues juives sur les changements de nom.
On garde souvent des repères.
Oui, ça m'a frappé. Il est très rare qu'il n'y ait pas de lien entre l'ancien nom et le nouveau. Au minimum l'initial, mais souvent plus. Une traduction, on garde quelques lettres, on garde le début, on garde la fin. Comme si changer complètement, se renommer avec quelque chose de démurgique. Et puis sans doute aussi pour garder un lien caché. Ainsi que mon père, Lipstein, est passé à la pierre, donc de...
La Parce pierre que dans Lipstein, il y a Pierre.
Stein, ça veut dire pierre. Donc.
S'il avait continué, et si vous aviez continué à vous appeler Lipstein, ça vous aurait peut-être évité d'entendre en face des propos antisémites.
Oui, j'ai jamais eu cette expérience, mais certains de ceux que j'ai interviewés à propos des changements de nom m'on dit cela, en effet.
Alors, cette règle pluriséculaire du nom qui classe, elle a été transformée aussi, au début des années 2000, par la possibilité pour les enfants de choisir entre le nom du père et le nom de la mère. Ça vous intéresse beaucoup.
Oui, c'est une loi de 2005. En fait, c'est la possibilité pour les parents de donner soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux à coller. Voilà. Qui laisse effectivement à la génération suivante un choix, en effet. J'étais favorable, je trouve ça tout à fait intéressant. On n'est pas obligé de rester absolument dans le système patronymique, c'est-à-dire exclusivement la transmission du nom du père. Et dans certaines familles, justement, où un nom est passe-partout et l'autre est plus chargé d'une histoire, c'est un moyen de se rattacher à cette histoire.
Mais pourquoi use-t-on si peu de cette liberté? Parce qu'il est paru une étude qui montre que cette règle possible n'est guère connue et en tout cas pas du tout généralisée.
Parce que les usages prévalent, je crois, et qu'il faut du temps pour les changer.
La logique de la place, la logique du nom qui vous est imposé. Parce que l'idéal, au fond, ça serait de pouvoir changer de nom tout le temps, quoi, pour vous.
Oui, il y a des sociétés traditionnelles dans lesquelles on change de nom à chaque étape de l'existence. Notre système de nomination patronymique n'est pas le seul système de nomination. Toutes les sociétés nomment, mais de façon diverse. Et c'est vrai que, après avoir écrit ce livre, changer de nom, au fond, je me suis dit, se connaître de nom, c'est vraiment se connaître bien peu. Le nom vous classe, vous déclasse éventuellement, vous défavorise dans toute une série de choses dans la vie. Enfin, aujourd'hui, s'appeler Mohamed ne facilite pas nécessairement la possibilité de trouver un travail ou un logement, par exemple.
Dites-moi, Nicole Lapierre, on voit bien que vous détestez les assignations. Vous avez aussi le goût de cultiver la mémoire sur votre famille. Depuis ces premiers livres qu'on évoque, vous avez appris pas mal de choses. Récemment, d'où ce troisième objet très intime qui tient dans la main, sauf qu'il peut, la vie. Alors dites-moi, il y a quand même des semelles de plomb et des déterminations très fortes dans votre famille. Votre grand-mère, c'est pratiquement la première phrase, est morte en 34, votre sœur est morte en 82, votre propre mère est morte en 90, et toutes trois se sont suicidées. Les ombres passe dans la famille. Alors, c'est un livre qui se lit, c'est pas un livre qui se dit. On va pas entrer dans le détail. Et en même temps, vous ne cessez d'expliquer que il reste la possibilité des ailes pour s'envoler et s'échapper de ces déterminismes.
Tout à fait. J'avais envisagé d'appeler ce livre, et c'est le titre d'un chapitre, un kilo de plume, un kilo de plomb. Et quand on dit aux enfants qu'est-ce qui est plus lourd, un kilo de plume, un kilo de plomb, et qu'ils tombent dans le panneau, on leur dit mais un kilo, c'est un kilo, ballot. Mais imaginairement, ça n'a pas le même poids. Et il y a les deux dans cette famille, y compris ma mère et ma sœur qui sont suicidées. Je n'imagine pas de les réduire uniquement à cette douleur et à cet acte final. Je les ai connues rayonnantes. Je me souviens de leurs éclats de rire. Et moi, j'ai l'impression toujours d'avoir été du côté du « sauf qui peut la vie », qui est finalement devenu le titre de ce livre. C'est-à-dire, il y a toujours une esquive, il y a toujours une part de liberté. Il n'y a pas de déterminisme implacable, ni social, ni psychique, je crois.
Votre père a enregistré toutes ses morts. Ça a fait penser à Jacques Sigal, à ce livre déjà ancien que vous n'avez pas lu, je suis sûr, « Les eaux mêlées » de Roger Icor.
Si, je l'ai lu, bien sûr.
Et il y a une adaptation à la télé, bien connue, de Jean Kerchbron. Le vieux père, donc juif venu de Russie, est dans une maison à la campagne où il s'est installé. Et après avoir compté les morts, il enregistre le mouvement de tous ceux qui reconstituent la famille.
Pas la peine de faire semblant d'être comme les autres. Au contraire, plus on est différent, plus on apporte de richesse à celui qui vous accueille. Le temps passe, ça pousse les enfants. Trois fois arrière-grand-père qui l'aurait cru. Et les neveux, les nièces, ça en fait du monde. Je suis de Virlay, moi, à présent. 76 ans. J'ai dépassé l'âge de mourir. Pourquoi s'arrêter ici plutôt que là? Pourquoi mourir aujourd'hui plutôt qu'hier? Enfin, oui, c'est vrai. La vie. Elle est bonne, la vie, alors.
il est de Virley. Et vous, vous êtes de l'Hérault, maintenant ?
Je suis parisienne, mais j'ai une maison dans l'Hérault et qui est devenue très vite une maison de famille. Comme
dans le film de Carl Brun.
Absolument.
Oui. Enfin, vous dites que c'est une néo-maison de famille.
Bien sûr, parce que nous l'avons achetée il y a quelques années, nous l'avons meublée avec des choses qui viennent d'ailleurs. Enfin, c'est pas une maison qui s'est transmise à travers les générations, mais pour mes petits-enfants, c'est déjà une maison de famille. Ça me fascine même de voir à quel point, finalement, très vite, le lieu avec les cachettes, les souvenirs, les filets à papillons et que sais-je encore, devient une maison de famille. Exactement, ce que je lisais moi dans les livres d'Enid Blyton sur le club des cinq, qui me semblait très très exotique quand j'étais petite, parce que nous allions toujours en vacances dans les hôtels.
Oui, vous aimez bien les hôtels d'ailleurs aussi, hein, Nicole Lapierre.
Oui.
Mais alors, si on fait le compte à votre tour, le livre, Sauf qui peut la vie, c'est paru aux éditions du Seuil, il est dédié à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Oui,
petits.
À ma fille, à ma nièce, et aux 7 petits. Aux 7 petits, qui sont 5 petits-enfants et 2 petits-neveux, qui sont pour moi comme mes petits-enfants.
Et parmi eux, il y a les enfants de Francine qui s'est suicidée, celle qui vous disait les poèmes de Saint-Jean-Perse, « s'en aller, parole de vivant ». Parce que cette réflexion que vous menez depuis des décennies, Nicole Lapierre, c'est une réflexion sur l'énergie salvatrice de ceux qui ont la force de partir aussi.
Absolument. Et ça, j'y tiens beaucoup. Je crois que c'est au fond ce que m'a transmis mon père, qui était un immigré, qui a décidé de jouer sa vie. Il était arrivé en France, il ne parlait pas le français, il s'est dit « je vais me débrouiller avec le latin ». Et je pense, moi, profondément, que les immigrés sont des héros. Les héros d'aujourd'hui, on ne les voit que comme des victimes, et c'est vrai qu'ils affrontent parfois des choses terribles, mais ils sont en même temps sujets de leur propre vie, ils ont fait un choix, ils sont partis, et c'est difficile et c'est courageux de partir, de projeter sa vie dans un autre pays, une autre langue, en se coupant des siens, même si on fuit des choses terribles aussi. Et je pense que c'est important de prendre la mesure de ce courage et de ce dynamisme, de cet héroïsme-là.
Merci à vous, Nicole Lapierre. Le dernier des livres qu'on a cités, les autres sont toujours disponibles, Sauf qui peut la vie, aux éditions du Seuil. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Elinka Negulesco, avec à la technique Hélène Langlois.